la paix. Il est 12h. Le journal du midi. Mel Emmanuel.
Heureux de vous retrouver pour le journal de la mi-journée. Bonjour à tous. Le gouvernement ivoirien veut renforcer la sécurité du pays à partir des ambassades. Volonté et information portée lors du Conseil des ministres du mercredi 28 février 2024. La mutuelle panafricaine de gestion des risques a organisé un dialogue politique ce mercredi 28 février 2024 à Abidjan autour du thème « Genre, urgence sanitaire et gestion des risques et de catastrophes ». Là-dessus, vous aurez dans ce journal des précisions avec Jean-Claude Mabéa. Hors de la Côte d'Ivoire, au Ghana, l'ONU appelle à ne pas promulguer le projet de loi condamnant les LGBTQ+. Et puis, en fin de journal, nous aurons l'invité de la rédaction. Il s'agit du président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Le professeur Antoine Owo-Asepo reviendra sur le rôle et la mission de l'institution, cela à l'occasion de la célébration de son 20e anniversaire. Soyez les bienvenus sur Radio de la Paix. Conseil des ministres du mercredi 28 février 2024, le gouvernement ivoirien veut renforcer la sécurisation foncière rurale. Une convention de 123 milliards de francs CFA vient d'être signée avec l'Association internationale de développement. Le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly.
Le sixième décret adopté par le Conseil est relatif à la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 188 600 000 euros, soit 123 713 490 200 francs, conclu le 12 décembre 2023 entre l'Association internationale de développement, l'AID, et la République de Côte d'Ivoire pour le financement du programme de renforcement de la sécurisation foncière rurale. Ce programme vise à numériser le processus de sécurisation foncière coutumière en milieu rural en vue d'accélérer le processus et de réaliser un enregistrement systématique à grande échelle des terres coutumières. Il prévoit la fourniture de matériel informatique et une assistance technique pour la numérisation complète de l'enregistrement des terres, la conception et la mise en œuvre des campagnes de sensibilisation communautaire et de clarification des droits, ainsi qu'un appui financier à la mise en place et à l'opérationnalisation des comités villageois de gestion foncière rurale.
C'était à l'instant le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. La mutuelle panafricaine de gestion des risques, African Risk Capacity, a organisé un dialogue politique ce mercredi 28 février 2024 à Abidjan autour du thème genre, urgence sanitaire et gestion des risques de catastrophes. Ce forum a donné l'occasion aux participants d'explorer des pistes pour des actions cohérentes afin d'assurer une protection des populations en cas de catastrophe naturelle. Jean-Claude Mabéa.
Les résultats et recommandations de l'étude menée dans les aires sanitaires d'Abidjan et de Mans ont été présentés par Tracy Agbé, l'expert en genre et consultant recruté par l'ARC pour le projet.
Il faut que déjà au niveau politique, qu'on revoie les textes pour que la question des genres devienne quelque chose vraiment de prioritaire. La deuxième, il faut que la formation soit vraiment de mise à tous les niveaux. Chaque formation devra faire l'objet de suivi régulier. Et ce suivi ici en Côte d'Ivoire devrait être confié au ministère de la famille, de la femme et de l'enfant, et à l'Observatoire de l'équité et de l'égalité.
Retour sur les motivations de ce dialogue politique avec Ibrahima Cheikh Diong, le directeur général de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques.
La Mutuelle panafricaine de gestion des risques a été créée par l'Union africaine essentiellement pour aider nos pays membres à pouvoir mieux planifier, mieux se préparer et répondre aux catastrophes liées au changement climatique ou aux épidémies. La Côte d'Ivoire est un des pays fondateurs de cette institution. Il est clair que c'est important qu'on soit là d'abord pour deux raisons. La première, on vient de tenir notre conseil d'administration à Abidjan. Aussi, la Côte d'Ivoire a été choisie pour habiter le siège de l'institution. Et puis, troisième raison, c'est qu'on voulait avoir un dialogue sur les questions de genre et les questions de catastrophe. Et la réunion qu'on a eue nous a permis de voir les défis auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée, mais aussi les recommandations pour pouvoir renforcer la protection des femmes en cas de catastrophe, notamment pour le changement climatique, mais aussi pour les épidémies.
À noter que la Côte d'Ivoire fait partie des six pays de la CEDAO bénéficiaires de ce projet.
La prochaine étape des dégarpissements à Abidjan selon un programme du district Kora du 9 au 17 mars 2024. Ces opérations concernent 176 sites, dont 77 zones critiques listées sur le site de la collectivité territoriale www.abidjan.district.ci. Linda Ballier l'a consulté et nous propose quelques sites concernés dans cet élément.
Si la Côte d'Ivoire vient de brandir la Coupe d'Afrique des Nations de football, celle de la salubrité ne tardera pas, surtout s'il y va de la sécurité et du bien-être des populations. À cet effet, le gouvernement ivoirien, via le district autonome d'Abidjan, a répertorié 176 quartiers dans toutes les 12 communes d'Abidjan à démolir, spécifiquement les constructions anarchiques, les zones à risque d'inondation et de glissement de terrain. Ainsi donc, à Abobo-Labell, 15 quartiers feront l'objet d'une attention particulière, parmi lesquels Sagbe, Biabou, Ndotré Centre de Santé et le bassin d'orage d'Anonkwa. Une autre commune dont 35 quartiers révèle un taux de criticité élevé est celle de Yopougon, qui a récemment vu les caterpillars du district opérer à Jesco et Banco 1. Outre ces localités, le ministre-gouverneur entend déguerpir celles de Niangon, Adjamé, Cité Kestab, Koweït, Académie Pays-Bas. Même la cité smart de la capitale économique ne sera pas en marge de cette destruction massive. La Carina côté Pinasse, le boulevard de la Paix face au marché Vivrier ou encore la Bretelle Chardy seront rayés de la cartographie du plateau. À Marcory, la commune chic et fleurie, les démolitions concerneront les secteurs Anoumabo 3e pont, Amangou Village, la casse du pont Anoumabo et celle vers l'ARTCI. La liste des sites à déguerpir dans cet élément est non exhaustive et consultable sur le site du district d'Abidjan. Mais rappelons cependant qu'au-delà de l'émotion, l'opération a pour but de prévenir les éboulements et les inondations, comme souvent constaté en saison de pluie, période qui enregistre bien souvent des pertes en vies humaines.
Après 2023, année de la jeunesse au cours de laquelle 1300 jeunes ont transité dans les différents centres de services civiques, c'est aujourd'hui vendredi 1er mars que va s'effectuer la rentrée 2024. Rappelons qu'un vaste projet de construction de 14 centres de services civiques est en cours pour un coût total de 29 milliards de francs CFA, l'objectif étant d'accueillir 14 000 jeunes par an à compter de 2024. Écoutons ce propos à Amara Koulibaly, directeur de l'Action pour le service.
Les centres de services civiques sont ouverts. Les inscriptions sont ouvertes, qu'ils viennent s'inscrire. Il s'agit de faire en sorte que des jeunes qui peuvent avoir le sentiment que tous les horizons sont bouchés, de faire en sorte que ces jeunes-là puissent avoir cette lueur d'espoir-là, ces jeunes-là puissent avoir cette possibilité-là de pouvoir s'insérer au niveau social et au niveau professionnel. Les inscriptions sont entièrement gratuites. Donc j'en appelle à l'ensemble des jeunes. Et quand je dis jeunes, je parle aussi bien de jeunes filles comme de jeunes garçons, puisque sur nos centres, il y a des jeunes filles qui sont également admises. On a même un programme spécial qui s'intéresse aux jeunes filles et aux jeunes femmes mères, c'est-à-dire celles qui ont des enfants à bas âge et qui peuvent être empêchées justement par le fait que cet enfant est là, de suivre une formation. On a des programmes spéciaux qu'on organise sur nos centres de service civique avec ces jeunes filles, avec ces jeunes mères, en faisant en sorte qu'elles puissent s'occuper effectivement de leurs enfants. On va donc ouvrir une crèche. On a des centres de services civiques où il y a des crèches qui sont ouvertes sur le centre, encadrées donc par des éducatrices préscolaires qui vont non seulement suivre la mère elle-même, mais également l'enfant sur les questions de nutrition et sur les questions de bien-être de l'enfant.
Propos du directeur de l'Action pour le service civique, Amara Koulibaly, rapporté par Mata Touré. Prenons la direction du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Dans la préfecture de San Pedro, les acteurs de la plateforme de concertation autour de l'école se sont retrouvés le mercredi 21 février 2024. Objectif de cette rencontre, exposer les problèmes de l'école à San Pedro afin d'apporter des solutions et permettre de bons résultats scolaires. Dans le Bassa Sandra pour Radio de la Paix, la correspondance de Kofi Benson.
La plateforme de concertation autour de l'école, une idée du préfet de région Ousmane Koulibaly, est une tribune qui permet d'exposer les problèmes de l'école en vue d'envisager des solutions. Pour Dira Souba Moussa, directeur régional de l'éducation nationale à San Pedro, chacun à son niveau peut agir pour une école plus performante.
On s'est dit qu'il faut faire en sorte qu'on puisse améliorer les résultats à tous les niveaux. Et cela passe naturellement par l'implication de tous. Il y a des coachings pour les élèves, pour le personnel administratif. administratifs et enseignants. C'est tout ça que nous sommes venus exposer pour montrer à tous les acteurs que c'est vrai, il y a des difficultés. L'état de certains établissements et puis les cas d'insécurité, de drogue, de fumoir aux abords de nos écoles. Mais il y a des pistes de solutions.
Quelques pistes de solutions proposées par Sadogo Fatoumata, secrétaire général 1 de la préfecture de San Pedro.
Il faut recenser tous les points pour pouvoir démanteler tous ces fumoirs là, parce que ce n'est même pas agréable d'entendre qu'il y a des fumoirs qui se trouvent aux abords des établissements. Au niveau du paiement des indemnités de collection, ce sont des choses qui ne vont pas exister encore. Monsieur le trésorier sera instruit à l'effet que ces paiements se fassent le plus tôt possible. Si nous sommes tous ici, c'est grâce à l'école. Il faut que nos enfants puissent avoir une base. S'il n'y a pas d'infrastructure, on ne peut pas attendre des résultats. Tout ce qui a été évoqué ici, ce sont vous les collectivités que nous regardons.
Des collectivités décentralisées qui devront répondre aux besoins en infrastructures et matériel didactique. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Hors de la Côte d'Ivoire, au Ghana, l'ONU appelle à ne pas promulguer le projet de loi anti-LGBTQ+. Ce projet de loi qui criminalise les personnes LGBTQ+, et leurs sympathisants, a suscité une condamnation internationale hier jeudi après son adoption par le Parlement. Les Nations Unies l'ont qualifié de profondément troublant et ont demandé à ce que le projet de loi n'entre pas en vigueur. Le projet de loi qui a été voté par le Parlement ghanéen a été présenté pour la première fois il y a 3 ans. Il criminalise les relations, l'activité sexuelle et les démonstrations publiques d'affection entre les membres de la communauté LGBTQ+. Toujours hors de la Côte d'Ivoire, nous partons au Sénégal. Fin du mandat de l'actuel président Macky Sall le 2 avril prochain. Le Conseil constitutionnel sénégalais désormais le seul maître à bord. Selon Jean-Louis Correa, professeur de droit à l'université numérique Cheikh Amidou Kane de Dakar, le Conseil constitutionnel pourrait désigner l'actuel président de l'Assemblée nationale pour gérer une transition de 2 mois, le temps d'organiser l'élection du nouveau président du Sénégal. Nous l'écoutons.
Comment on va gérer l'après 2 avril? Et ça, seul le Conseil constitutionnel peut nous le dire. Et qu'entre le 2 avril et le 2 juin, que ce soit le président de la République actuelle qui puisse continuer jusqu'au 2 avril. Ce que ne semble pas vouloir le président de la République. Il semble, sur ses positions, de dire que moi, au 2 avril, je suis parti, j'en ai assez, je vous rends vos clés, et au 2 avril, je suis parti. Sauf qu'on ne peut pas quitter le navire comme ça, il faut laisser un capitaine à bord, et ce capitaine-là, il ne pourra être décidé que par le Conseil constitutionnel.
Mais est-ce que le Conseil ne va pas proroger le mandat du président de la République, Macky Sall?
Je pense que la doctrine du Conseil constitutionnel sénégalais est claire. Sur la question du mandat, le Conseil l'a dit en 2016, l'a dit récemment. Le Conseil dit clairement qu'il n'appartient pas aux hommes politiques, quelles que soient les circonstances, de modifier la durée du mandat du chef de l'État. Donc, on sait maintenant que le Conseil constitutionnel sénégalais refuse que l'on augmente le mandat du président ou que l'on diminue le mandat du président. Si on suit cette logique, le Conseil va aller vers la désignation d'une autre personne, peut-être le président de l'Assemblée nationale, pour tenir ce bateau pendant les 2 mois, de mai, juin, 2 mois pour gérer les affaires courantes le temps que l'élection puisse se tenir.
À l'instant, le professeur Jean-Louis Correa de l'université numérique Cheikh Amidou Kane de Dakar, joint par Constant Maïlé. Revenons en Côte d'Ivoire. Après les joueurs et les encadreurs au palais de la présidence il y a quelques jours, 193 autres acteurs impliqués dans l'organisation de la CAN 2023 ont été distingués dans l'ordre du mérite national. C'était le mercredi 28 février dans les jardins de la primature, à l'initiative du Premier ministre Robert Begré-Mambé.
Si on pouvait décorer les 29 millions d'Ivoiriens et tous nos accompagnateurs du monde entier qui nous ont acclamés, qui nous ont soutenus dans cette grande compétition, les Ivoiriens nous ont donné la preuve que ce pays est un très beau et grand pays. Si on pouvait les décorer tous, on les aurait décorés. Mais vous qui avez eu la chance d'être décorés, je vous demande pardon. Nous sommes les représentants des 29 millions d'Ivoiriens et de tous les amis de la Côte d'Ivoire. Je vous assure, tous ceux qui vivent dans le pays ont porté le maillot de la Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas d'étrangers, il n'y avait pas d'Ivoiriens. Tous supportaient des éléphants. Ça a été un moment de communion extraordinaire. C'est pourquoi je voudrais demander humblement à tous ceux qui ont été décorés, pardon, la décoration, on vous a choisi, hein, mais c'est pour tous les Ivoiriens. La CIE, la SODECI, la Géroute, la SOTRA, le Benet, Côte d'Ivoire Énergie. Mais les artistes ivoiriens m'ont étonné. Parce qu'ils prennent deux ou trois petits mots, ils vous font une chanson, mais ça déstabilise l'adversaire. Il dit, coupe là, c'est chez nous. On marque quand on veut. On encaisse quand on veut. On rate pénalty quand on veut. On arrête pénalty comme on veut. Les transporteurs, les gloires du sport, tous les Ivoiriens méritent d'être décorés. N'oublions pas, notre plus grande richesse, c'est la grande fraternité que Dieu nous a donnée en cadeau pour que nous soyons tous des frères et des sœurs.
Vous écoutiez les propos du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Beugré-Mambé, recueilli par Junior Cardin. Nous voici arrivés au dernier virage de ce journal, l'invité de la rédaction. L'Académie des Arts, des Sciences, des Cultures d'Afrique et des Diasporas Africaines, ASCAD, célèbre cette semaine son 20e anniversaire. Que retenir de ces 20 ans et quel impact des travaux des académiciens sur la vie des populations? Le président de l'ASCAD est aujourd'hui l'invité de la rédaction. Professeur Antoine Owo-Asepo est interrogé par Didier Blay.
Professeur Owo-Asepo, bonjour.
Bonjour, monsieur Blay.
L'académie dont vous tenez les rênes a 20 ans cette année, sous quel signe vous placez ce 20e anniversaire?
C'est un signe du changement. Lorsque nous arrivons en majorité, nous avons donc d'autres perspectives. Il faut donc envisager un passage, évidemment avec un bilan et puis une projection dans l'avenir.
Aujourd'hui, après 20 ans, quel est le regard? Est-ce que l'ASCAD est sur la bonne voie? Est-ce que la route est encore très longue, professeur?
Nous sommes de plus en plus enracinés dans la conviction que rien ne se fera sans la science. C'est-à-dire, en fait, quand je parle de la science, c'est la connaissance et le savoir. Et la première ressource de la nation, c'est la conjonction connaissance-savoir. Maintenant, est-ce que parti de là, nous sommes sur la bonne voie ou là? Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Alors que nous avons peu de moyens, nous avons engagé des programmes de formation des scientifiques, à travers notamment notre commission d'attribution de bourses et notre commission d'attribution de prix. Nous avons aidé des scientifiques, nous avons organisé des concours et ça, c'est une fierté pour nous. Et à l'occasion, nous avons découvert que ce pays regorge vraiment de talents. Les intelligences, il y en a.
Vous avez parlé de bourses, du prix ASCAD, on a les rencontres scientifiques, on a des publications. Professeur, aujourd'hui, quel est l'impact de ces activités sur la vie même des concitoyens?
C'est difficile à mesurer, mais dès lors que vous formez des cadres, vous aidez en tout cas, parce que nous ne sommes pas les seuls, vous formez des cadres et vous les renvoyez sur le terrain social, forcément vous avez un impact. Nous avons des gens qui sont dans les sociétés, il y en a qui sont dans les industries, un peu partout. Donc l'académie a un impact forcément. Et surtout, si vous voulez, pour être plus concret, nous avons des partenariats avec, par exemple, les ingénieurs, les architectes, avec les scientifiques de tous bords. Nous développons beaucoup ce qu'on appelle la responsabilité sociétale, n'est-ce pas, académique. C'est-à-dire que nous avons un impact en participant, par exemple, à des travaux. Actuellement, nous sommes sur des projets d'État où des académiciens sont engagés. Nous avons des conseils, par exemple, nous avons des séminaires pour les professeurs, de formation et tout ça, donc nous avons un impact. Nous n'avons pas voulu être une académie qui s'enfermerait dans sa tour de voix.
Au-delà des populations, est-ce que le pouvoir étatique vous consulte, vous sollicite souvent, professeur, vous qui êtes des experts?
On aurait voulu être plus sollicité, mais ils nous sollicitent quand même. Ils ne sont pas sollicités à la hauteur que nous espérons. Et je pense que à l'occasion de ce passage-là, nous allons tout faire pour être sollicités parce que nous estimons qu'il y a des moyens matériels, des moyens financiers qui ont été mobilisés pour nous former et il faut qu'on travaille plus.
Alors, petit regard scientifique, vous êtes un peu inquiété justement de la tournure que prennent les choses. Finalement, réchauffement climatique, vous avez relevé que ce qui était universel est maintenant contredit, tout est presque remis en question. Est-ce que c'est alarmant?
C'est pas alarmant, je pense que c'est une opportunité. En prospective, on peut dire une opportunité. Il y en a qui trouveront le changement super comme une catastrophe. Mais si vous êtes stratégiste, vous dites que c'est une opportunité. C'est-à-dire que les changements comme ça qui vous mettent tout en question obligent, n'est-ce pas, les citoyens, les milieux scientifiques à rechercher d'autres solutions. Pendant longtemps, on peut dire en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème, il y a l'eau, il y a la pluie, tout ça. Bon, donc, il suffit de jeter des grains, tout pousse. Mais attention, on se rend compte maintenant que c'est pas... Vous avez vu la chaleur qui commence à faire, vous avez vu? Nous risquons d'avoir des problèmes sur nos récoltes et tout et tout. Ça, c'est la menace. Mais chaque menace, à côté, il y a l'opportunité. Puisque nous sommes menacés, les gens m'ont dit, mais attention, il ne faut pas couper les herbes, il ne faut pas couper les arbres n'importe comment, il ne faut pas polluer les niches d'eau, parce que voilà ce qui va se passer. Voilà. Donc, chaque menace, n'est-ce pas, appelle, si vous êtes stratégique un peu, appelle des opportunités, prendre d'autres attitudes, prendre d'autres résolutions.
Alors vous êtes un observateur averti de la vie sociale et politique de la Côte d'Ivoire, une opération de déguerpissement avec sa vague d'émotions et de réactions, un mot sur ces différentes situations.
Si vous ramenez ça en science, toute l'organisation subit des hauts et des bas. Maintenant, comment faire? Ce qui m'intéresse, tout ça, j'observe quels sont les mécanismes qui envoient ça. J'essaie de voir comment faire. Je vous donne un exemple. Pendant des histoires de déguerpissement, on peut éduquer les citoyens à prévenir ça, ou bien en tout cas à atténuer, ou à s'habituer, à se mettre en accord avec la... Pendant Yabou, qui connaissent la réponse d'urbanisme de l'Abidjan. Nous, j'ai vu ça. Alors, ce que les stratégies représentent, c'est d'éduquer civiquement, politiquement, stratégiquement, les citoyens à éviter l'accrochage sur le terrain. Il y a des programmes d'éducation. Maintenant, si c'est en politique, il y a d'autres manières de juger. Et l'éducation, c'est notre... On l'informe. Qu'est-ce que la ville? Qu'est-ce que les propriétés? Qu'est-ce que le climat? Qu'est-ce que... Sinon, vous regardez par exemple sur la rue, comment les gens circulent. Ils voient par an, le type, on met le feu rouge, ils passent. Donc, je pense qu'il y a une analyse qui est l'analyse scientifique. Elle est dépassionnée, elle est constructiviste. Elle essaie de voir l'ordre des choses. Et puis, en même temps, ça s'arrête pas là. Elle trouve comment on peut remédier à ça.
Professeur Wassepo, président de l'ASCAD, je vous remercie.
C'est moi. Merci beaucoup, c'est vrai.
Invité de la rédaction, Didier Blais recevait le professeur Antoine Owasepo, président de l'ASCAD, qui revenait sur les 20 ans d'existence de l'Académie. Voilà qui nous mène au rappel des titres de ce journal. Le gouvernement ivoirien veut renforcer la sécurisation foncière rurale. Volonté et information portée lors du Conseil des ministres du mercredi 28 février 2024. Et puis hors de la Côte d'Ivoire au Ghana, l'ONU appelle à ne pas promulguer le projet de loi condamnant les LGBTQ+. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la revue de presse avec Jean-Mélène Bitti.
Bonjour à tous. Que disent vos journaux sur le déguerpissement des quartiers précaires entamé par le district d'Abidjan? Sur ce sujet, le Nouveau Réveil écrit: après le déguerpissement à Jesco, Banco, Boribana et